Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Marie-France Solaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste.
Oui.
Hypnothérapeute.
Oui.
Praticienne en psychothérapie.
Tout à fait.
Et
oui.
Danse-thérapeute.
Et danse-thérapeute aussi.
C'est
oui.
extrêmement impressionnant cette liste d'activités. Vous nous avez contacté parce que vous installez votre activité ici. C'est l'occasion, bien sûr, de faire plus ample connaissance. Comment vous êtes arrivé ici et d'où venez-vous ?
Alors, je viens de Montpellier. J'ai travaillé beaucoup d'années à l'hôpital, à la cellule d'urgence médico-psychologique, à l'unité de prévention du suicide. Et en fait, j'ai un collègue qui travaille dans la Drôme, plutôt dans le Nord, et qui me parlait toujours de sa région et tout ça, et qui travaille avec beaucoup de personnes à l'agence régionale de santé, avec les hôpitaux. Voilà, il m'a donné envie de venir. Il avait envie d'avoir une collègue. On a fait la même école à Aix-en-Provence.
Une école de
De psychanalyste.
Mmh.
Et de psychopraticien.
D'accord. Voilà. C'est quoi la différence ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur
Alors, le psychopraticien, c'est le nouveau terme qui est indiqué pour psychothérapeute. En fait, les psychothérapeutes, c'est un terme qui est dévolu maintenant uniquement aux psychologues et aux médecins et aux psychiatres. Mais une personne qui n'a pas fait d'études médicales ne peut plus être psychothérapeute à l'heure actuelle. Il est praticien en psychothérapie. C'est un peu la même chose, mais c'est une question de loi, en fait, hein. Donc voilà. Donc c'est une école qui forme des praticiens en psychothérapie et des psychanalystes.
Donc les deux, à la fois des gens qui sont médecins et
oui. Parce que pour être psychothérapeute, il faut 2-3 ans. Pour être psychanalyste, il faut 4-5 ans.
D'accord.
Voilà, on continue ses études en fait.
Et vous n'avez pas fait vraiment de choix entre ces deux moyens. Vous avez effectivement beaucoup de spécialités.
Oui, en fait, je pense que la psychanalyse de nos jours, c'est quelque chose qui est très bien, mais les personnes veulent aller assez vite dans leur vie, ce qui n'est pas forcément un bienfait. Mais en tout cas, faire de l'introspection, ça prend du temps. C'est très intéressant, ça apporte énormément dans sa vie, ça permet d'aller au fond des choses. Mais faire de la psychothérapie, ça permet de régler un petit problème d'estime de soi, de confiance en soi, un problème de tabagisme, voilà. Ça permet vraiment d'avancer plus vite. Donc, c'est les petits moyens qui m'ont permis de dire, allez, hop, là, on passe la vitesse supérieure, on passe la seconde et on va faire un exercice de psychothérapie. Je vous donne quelque chose à faire à la maison, vous me le ramenez, on en discute. Voilà. L'hypnose, c'est la même chose. L'hypnose, on voit que ça ne veut pas venir, c'est un petit peu loin, le refoulement est important. Eh bien, on va aller chercher autre chose. Et donc, je fais du rêve éveillé dirigé.
Alors, on va y revenir, mais vous avez utilisé pas mal de mots qui ne sont pas une évidence pour tout le monde. Oui. Peut-être déjà une petite définition de ce que c'est que la psychanalyse.
Mais la psychanalyse, c'est une personne qui parle d'elle-même. Et donc, nous, on accompagne cette personne. Et elle va chercher dans ses lapsus, dans ses rêves, dans ce qu'elle a à dire sur le moment présent, sur le passé. Peu importe. En tout cas, elle vient pour parler, encore parler, chercher, comprendre. Et à force de défaire les nœuds, eh bien, elle en vient au centre. Et une fois qu'on a défait tous ces nœuds, on sent que finalement, on accepte son côté ombre, son côté lumière, parce que je suis jungienne quand même.
C'est-à-dire que vous vous revendiquez de Jung, Carl Gustav Jung.
Et donc, du coup, on s'accepte dans sa complémentarité, dans toute son entièreté. C'est ça le but. C'est de ne pas se sentir tout le temps justement et coupable ou responsable ou mal dans sa peau. Ben non, on s'accepte. Du coup, ça fait tomber plein de barrières et on se sent mieux dans sa vie. Ça, c'est la psychanalyse. C'est pour pouvoir défaire ce qui nous a construit en même temps. Hein. Ça, c'est bien. Mais des fois, ça empêche d'être bien dans sa vie.
Mm-hmm.
Donc, le fait d'en parler avec le psychanalyste, d'analyser ce qui se passe, les synchronicités, voilà, on défait des écheveaux, on défait les nœuds.
Et
voilà.
Vous parliez de refoulement, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce que c'est ?
Le refoulement, c'est quelque chose qui nous blesse tellement qu'on le met au fond de son inconscient et on met un mouchoir dessus. Et sauf, ça peut être quelque chose qui nous a blessé, comme une parole, comme un acte de notre enfance ou actuellement, je ne veux pas le voir, je ne veux pas l'entendre. C'est trop dur, je le refoule. Vraiment, je vais bien finalement. Non, non, mais ça ne m'a pas fait mal. C'est ça l'exemple que je pourrais donner. Je vais bien, non, non, mais moi j'ai de la personnalité, je ne vais pas têtu. Eh bien, je l'ai refoulé parce que je ne veux pas en parler justement. Et ça peut arriver que ça revient plus tard et donc on est mal, on ne sait pas pourquoi.
Est-ce que vous, votre travail de praticienne consiste à aller chercher, titiller un peu ces endroits où on a caché des choses ?
C'est ça, normalement, voilà, mon métier, c'est quand la personne dit quelque chose d'anodin, eh ben, je dois repérer ce qui n'est pas anodin.
Chasseuse de refoulement, en fait.
C'est ça. C'est vraiment la psychanalyse, on fait remonter le refoulement à la surface.
Et alors, vous disiez que la psychothérapie, qui ne s'appelle plus comme ça, effectivement...
Oui, pour les personnes qui n'ont pas ce nom, en fait. Hein, c'est juste un nom qui est revalidé par la loi ou pas. Donc, la psychothérapie...
C'est plus court, c'est plus direct.
C'est des thérapies brèves.
C'est des thérapies brèves. Ouais. Et ensuite, il y a l'hypnose. L'hypnose, oui. C'est un chemin encore plus direct pour aller à l'inconscient.
Pour certaines personnes, en fait. Je ne peux pas dire que c'est pour tout le monde, mais en fait, effectivement, c'est un chemin qui est plus rapide. Parce qu'on s'y met tous en hypnose. Hein. Quand on roule dans sa voiture et qu'on écoute de la musique, c'est le premier état de l'hypnose.
Ah bon ?
Bien sûr. L'hypnose, ce n'est pas du tout comme on voit à la télé. Oups là, on n'entend plus rien, on ne sait plus rien, on ne se rappelle plus rien. Non, non. L'hypnose, vous vous rappellerez, vous saurez ce que je vous ai dit. On peut en parler après. Non, on ne met qu'au premier état, justement, pour laisser passer ces bribes de pensées enfouies.
C'est comment l'hypnose ? Ça se passe comment ? Pratiquement ?
Alors, c'est un état de relaxation qu'il faut atteindre. Donc, moi, je vous amène à ça, avec la musique ou pas de la musique. Mais c'est un état de relaxation corporelle, mentale. Et ensuite, alors, ça dépend ce qu'on fait. Si c'est du rêve éveillé dirigé, c'est moi qui vais vous amener quelque part. Et vous allez me raconter ce que vous voyez de là où je vous amène. Donc, vous parlez en plus. Et si c'est du rêve éveillé libre, c'est-à-dire que je vais vous mettre dans un état de relaxation et vous allez me raconter ce qui vous vient. Et c'est là où c'est intéressant. Ce qui vient, c'est ce qui est vraiment caché. C'est du rêve.
C'est quelque chose qu'on pourrait faire à la radio ou pas ?
Et non, parce que je ne verrai pas les personnes et je ne verrai pas ce qui leur arrive. Donc, non.
On pourrait l'enregistrer, par exemple.
Oui, on pourrait enregistrer un moment où les personnes, par exemple, pourraient travailler sur l'estime de soi. Et ben donc, on va les amener où on grimpe la colline, par exemple, vous voyez. Et puis, qu'est-ce qui se passe en grimpant la colline? Qu'est-ce que vous allez rencontrer? Voilà, parce que ce qui vient à l'esprit de la personne, c'est aussi ses difficultés. C'est des métaphores, c'est tous ces mythes qui arrivent, qui interfèrent dans notre vie. Et ben c'est ce qui fait que ça nous construit et ce qui nous bloque ou bloque pas ou nous porte.
Et après la séance, du coup, il y a discussion autour de ce qui est arrivé pendant ce moment d'hypnose.
Oui. Après, on discute avec la personne. Ou alors, mais ça, c'est pareil, c'est du ressenti, hein, c'est vraiment un échange. Ou alors, c'est fort, voilà, on en parle 2 minutes. Et on laisse poser et on se revoit à la séance d'après pour laisser justement travailler.
Qu'est-ce qui détermine que vous utilisiez avec une personne telle ou telle technique ? Est-ce que il y a un premier entretien préalable ? La personne vient avec son problème.
Ouais. Eh ben ça c'est justement on voit avec la personne ce qui est le plus en adéquation à ce qu'elle veut au moment actuel et ce que je ressens aussi de la personne. Voilà, de ce qui est sensible pour elle ou pas. Mais on commence toujours quand même par des petits exercices pour voir où c'est qu'elle en est de sa vie, qu'est-ce qu'elle en pense, voilà. Comment ça la bloque ou pas dans sa vie ? À quel degré ça la bloque ?
C'est une vocation pour vous de soigner les gens ? Est-ce que vous estimez que vous soignez les gens ?
Soigner, oui, je suis dans le soin en tout cas. Oui, dans le soin, oui. Parce que soigner, vous voyez, j'aime pas ce mot, hein, c'est pour ça que je tique un peu. Soi, nier. Vous voyez, le soi est nié dans le soin. Oui, je sais, je suis psychanalyste.
Voilà, là, c'est la confirmation, vous êtes bel et bien psychanalyste.
Donc, je suis dans le soin, mais le soi nié, ça me gêne.
Vous accompagnez les gens plus ?
Vraiment. C'est soutenant aussi, hein. C'est un accompagnement soutenant, hein. C'est-à-dire qu'il y a une présence, il y a une action, on peut me contacter. Voilà, je suis présente quand les choses ne vont pas. Vous voyez, parce que j'ai souvent travaillé aux urgences psychiatriques aussi et dans les urgences. Donc du coup, s'il y a un problème, j'aime bien être là et répondre.
Là, vous vous installez en cabinet, ici ?
Oui, à Dieulefi, à Montélimar.
Pour quel type de problème on peut venir vous voir, par exemple ?
Quel type de problème ? Eh ben, les séparations de couple, les problèmes avec les enfants. D'ailleurs, j'ai fait une conférence la semaine dernière sur les enfants tyrans. Et en parlant des enfants tyrans, je voulais parler des parents maltraités. Mm-hmm. Parce que ça, on n'en parle pas. Mm-hmm. Et justement, j'ai bien expliqué que ce n'était pas un problème d'éducation, mais c'est vraiment un problème de société, de comment on vibre avec son enfant ou pas. Et qu'est-ce que lui, il peut ressentir par rapport à ça ? Donc ça m'interpelle, hein, ces parents qui sont mal Voilà, ça, j'ai envie de faire des groupes justement pour les soutenir, pour qu'ils soient mieux. Pour que
Mais enfant tyran, ça sous-entendrait que les parents sont les victimes de leur propre enfant ?
Tout à fait.
Et qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Ben, ça signifie qu'il y a une relation qui s'est mal passée à un moment ou à un autre et que la stratégie familiale où le parent éduque son enfant s'est inversée.
D'accord.
Et une fois que c'est inversé, c'est très, très difficile de revenir. Donc, il faut que le parent s'accroche à ses valeurs. Et donc là, je travaille avec la thérapie ACT pour revenir vers ses valeurs. C'est une thérapie qui... Oui,
elle répond automatiquement à l'interrogation qu'elle peut lire dans mes yeux, ce qui est un petit peu normal. Hein. Il y a beaucoup de choses d'un coup.
Oui, donc ça permet de retourner vers ses valeurs. Et donc, on fait des exercices pour ça. C'est-à-dire que les gens, quand ils disent « oui, moi, je suis dans l'amour et tout », ok, pas de problème. Mais ça c'est une envie, c'est un désir, c'est un besoin, je suis dans l'amour. Eh bien, l'état d'être, c'est être aimant. Et donc, je vais être aimant tous les jours avec quoi que ce soit, où que je aille, quoi que je fasse. Être aimant, c'est rencontrer quelqu'un et lui sourire.
Mmh.
Tandis qu'être dans l'amour, ben, je suis dans l'amour, mais pour qui, pourquoi voilà, c'est...
C'est subtil.
Oui, c'est subtil. Mais justement, à aller vers ces valeurs-là, ça change les relations. Voilà.
Vous préférez les consultations en cabinet ? Vous me disiez avoir travaillé en urgence psychiatrique. Oui. Que c'est un travail très, très différent.
Il y a les consultations aussi aux urgences psychiatriques, hein, mais ce qu'il y a, c'est que dans les urgences, on est souvent dans l'urgence. Et donc là, j'avais envie de suivre un petit peu plus les patients qui vont quand même bien, mais qui ont besoin d'un coup de pouce, qui ont besoin de voir où ils vont dans leur vie, que ce soit justement une séparation, un deuil. J'ai travaillé aussi beaucoup avec les médecins légistes.
Mmh.
Et puis j'ai travaillé dernièrement à l'unité de prévention du suicide, donc que ce soit en prévention ou en postvention, accompagner les personnes qui ont un deuil aussi, c'est quelque chose que je connais et qui peut aider.
Quelles sont les figures qui ont construit un peu votre parcours, que ce soit au niveau psychanalytique ou peut-être au niveau des rencontres, si jamais des gens les connaissent, ça peut être intéressant de savoir de quoi vous vous êtes nourri, vous?
Ben, c'est le docteur Santoro au départ, c'est Jean-Pierre Santoro, c'est un médecin légiste qui est à Montpellier et qui a été très proche avec qui j'ai pu aller sur les découvertes, excusez-moi, de cadavres. J'ai beaucoup travaillé sur les scènes de crime et tout avec lui. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup porté et puis qui laissait faire les personnes, qui leur laissait dire ce qu'ils avaient envie de dire. Parce que des fois avec les médecins, c'est pas toujours comme ça, on le sait. Hein. Et là, ça se passait très très bien. Et puis après, le professeur Philippe Courtet, évidemment, qui est hyper connu et avec qui j'ai fait énormément de congrès. J'organisais les congrès avec lui pour la psychiatrie.
Mmh.
Voilà, donc il m'a beaucoup porté aussi, beaucoup apporté.
Très bien, on va se faire un plaisir de venir vous voir.
Ben oui.
Est-ce qu'on peut aussi venir vous voir quand on va bien ?
Oui, parce qu'on peut toujours travailler quand on va bien. Et là, on fait du bien-être, du développement personnel avec la danse-thérapie.
Ah, on n'a pas parlé de la danse-thérapie. Oui, dites-nous en quelques mots ce que ça apporte et ce que c'est.
Enfin... On relâche les tensions, en fait. Et on travaille quand même sur soi, que ce soit féminin, masculin. Alors, j'avais un monsieur qui venait et qui prenait les cachets pour dormir. Et quand il venait, il me disait, ce jour-là, je ne prends pas de cachet pour dormir. C'est génial.
La détente.
C'est ça.
Et vous allez faire aussi donner des cours collectifs, peut-être ?
À la danse-thérapie. Oui, tout à fait. J'aime bien les groupes. Oh, c'est très bien, oui. Des petits groupes, parce qu'il faut pouvoir se détendre, se lâcher, voilà.
Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver des informations sur vos activités ?
Alors, pour l'instant, je vais créer le site, mais je ne l'ai pas encore créé. Il faut avoir une brochure, j'en ai déposé un peu partout. Et puis, voilà, il faut m'appeler sur mon numéro, c'est en train de se faire.
Nous mettrons les coordonnées sur le site de la radio.
Oui.
Merci Marie-France Solaire et très bonne installation, bienvenue.
Merci beaucoup.
À bientôt.
radiola.media.